Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Les tontons.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Oh merde!
Les tontons.
La France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire.
Flingue.
L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants.
Oh, ça va atomiser. C'est l'émission des tontons flingueurs.
Bonjour, il fait moins 2 degrés ce matin sur la place de la mairie à Saint-Affrique, température ressentie moins 58. La France a peur, la France a froid. Bonjour Marie.
Bonjour Gilles.
On a un invité super cool dans le studio qui est venu se glacer avec nous, Jeannot. Bonjour,
bonjour
Jean-Lermite.
Bonjour, bonjour.
C'est vachement sympa d'être venu nous faire un petit coucou, ça va
hein? Il fait meilleur chez vous que dans mon atelier.
Voilà, derrière la glace, j'ai un espèce d'alien pas réveillé avec un micro au-dessus de la tête. Elle s'appelle Chloé, merci pour la technique Chloé. Vous êtes bien donc sur les tontons, on est en direct, il est 10h, on est en direct, s'il est 19h, on n'est plus en direct, et si on est samedi, on n'est pas non plus en direct, on a autre chose à faire le samedi que de vous raconter des conneries. Tout de suite, on vous rappelle le numéro de téléphone, puisque l'avantage du direct, c'est que vous pouvez intervenir au 05 65 49 29 94, n'hésitez pas, on a fait une émission, alors on a changé un petit peu, on a des bruits qui recourent, qui montent de la base et qui nous disent « les tontons, ça baisse ».
Et moi, c'est normal, ils ont intégré une fille. Alors
déjà, pour commencer, ça pouvait pas être autrement.
En plus, ils ont pris quelqu'un qui ne risquait pas de les perturber sur le plan intellectuel. Hein, et moi, voilà, je joue le rôle de la blonde. J'espère que vous en avez tous rendu compte.
Mais tu es blonde.
Je suis même pas blonde. Mais ça marche très bien.
Ça marche très bien.
C'est parce qu'il y en avait marre de cette parité molle. Là, voilà. Tu vois, là, on est deux, là, maintenant.
Parité molle, je vois pas de quoi tu parles.
C'est pour faire dans le ton.
Vous parlez de François Hollande ?
On parle de toi. Non, non.
Bon, non, je reviens sur deux secondes sur cette histoire de la base qui nous dit que les tontons, des fois ça baisse, des fois c'est moins bien, mais c'est normal. Hein. Ça tient d'abord sa vie, et puis ça tient à deux choses aussi, c'est que si au lieu de nous dire ça quand on se croise dans les bars, vous veniez avec nous à l'antenne, comme vient de le faire Jean, pour nous secouer un petit peu, bah, vous allez voir que l'émission, elle va trouver du dynamisme. Je rappelle que c'est une émission faite par des bénévoles, que l'objectif, c'est pas prétentieusement de traiter l'actualité, même si des fois on peut se noyer un petit peu dans ce genre de truc, mais sans même s'en rendre compte, on prépare, peut-être qu'on prépare trop, peut-être que des fois c'est spontané, des fois moins, peu importe, si vous n'êtes pas content, téléphonez, si vous n'êtes pas content, venez dans le studio, et puis nous, de toute manière, bah, on essaye de vous donner du bonheur, on essaye de s'amuser aussi, et si un jour, bah, vous ne vous amusez plus, et nous non plus, bah, on se rend tirer les...
Voilà,
on
se rend
tirer les conséquences. Tu dramatises, là, ça
oui,
va, quoi,
j'ai dit la France a peur,
la France a peur.
Respecte mon titre un peu, toi, respecte mon accroche. Allez, deuxième partie d'émission, on aura un débat vraiment, parce qu'on a justement, on a fait un test aujourd'hui, tiens, c'est pas préparé, c'est-à-dire qu'on a, on est arrivé quasiment les mains vides, on n'a pas fait de revue de presse autre que celle qui consiste à regarder les infos comme vous, de temps en temps dans la journée. On va la faire à l'arrache, on va profiter qu'on a un invité, parce que si nous on n'y arrive pas, eh ben on lui filera la parole.
Ah, cool.
Ah, cool. Donc deuxième partie de d'émission, il y aura un grand débat, on va essayer de faire un grand débat, mais entre citoyens, pas un truc prise de tête, un truc pour essayer de comprendre comment, alors que l'environnement est quelque chose d'aussi important, d'aussi conditionnant à commencer sur nos factures, aujourd'hui, il est quasiment absent, à part par la voix des Verts, de la pensée et de la parole politique. Mais tout de suite, on va défricher justement un petit peu cette info.
Alors voilà, donc là tu te tournes vers moi, c'est ça?
Non,
moi,
je regarde si tu m'écoutes attention, avec attention.
Ah, toujours Gilles, je bois tes paroles, tu sais bien.
Ouais.
Ah,
la coupe est pleine.
Non, je t'ai plus. La semaine dernière, on a fait un petit topo sur l'annonce de candidature de François Hollande. Bon, ça nous a pas fait forcément vibrer, à défaut de mieux. Mais on va changer, parité oblige. On va donc s'intéresser aujourd'hui à la non-candidature annoncée officiellement de Nicolas Sarkozy Ier, parce que franchement, ça valait quand même son pesant de cacahuètes, son intervention télé devant 8 chaînes, enfin, dans 8 chaînes de télé. Tout le monde y est passé, 16 millions de personnes ont vu ce...
Une prise d'otage médiatique.
Ouais,
ça,
ont vu ce Mickey nous raconter des trucs absolument hallucinants. Même les journalistes de droite sur le plateau n'arrivaient pas à y croire. C'était assez impressionnant de mauvaise foi. Mais il y a quand même des trucs à retenir là-dedans. Voilà un candidat qui commence son régime au Phuket. et qui le termine avec une hausse de la TVA d'un 0,5%. C'est pas mal comme symbole quand même. C'est assez fort tout ça. Ça donne un bon package à la fin hein, en termes marketing.
Oui, c'est pratique,
là. Voilà. Il y a même plus besoin de ruban dessus. Hein. Donc Sarkozy nous a fait ce package. Il vient nous annoncer du sang et des larmes. Il vient nous annoncer et il a le culot de nous dire je n'augmenterai pas les impôts.
Oui, il nous l'a déjà dit. Ça.
Ouais, arriver à ce stade. Non, mais arriver à ce stade.
La TVA quand même. De toute façon, ça ne s'appliquera pas puisque il faudrait qu'il l'applique, qu'il soit réélu pour l'appliquer.
C'est ça. Arriver à ce stage, le foutage de gueule.
Ah. Oui.
Non, mais attends, mais c'est hallucinant. Moi, je me souviens. On regarde. Souvenez-vous, dans les livres d'histoire, on avait les rois avec des cheveux farinés. Tiens, c'est le moment d'en parler. Ils avaient déjà les cheveux farinés à l'époque. Il paraît que c'était très crade dessous, mais c'est pas grave. Ils faisaient déjà les mêmes discours, les mecs. Il devait dire au peuple, je vous ai compris.
Demain, il y aura du pain.
Demain, il y aura du pain, et puis si vous êtes sage, je vous mettrai des jeux avec.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est la posture, par contre, de prendre des trucs impopulaires. Bon, à part l'histoire sur le logement, dont tout le monde.
Tu vas pouvoir monter un troisième étage, ouais.
Mais la TVA, c'est quand même extrêmement impopulaire. Donc c'est marrant, cette posture de. Après, Calimero, c'est regarder le père Courage.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais. J'arrive pas à comprendre quand même le fond
de la
manip là-dedans, non, non.
Ah, mais attends, tu sais où on en est au stade dans la communication politique aujourd'hui. Il y a un très très bon. Une super série qui est passée hier soir, hein, qui passe le mercredi soir, qui s'appelle Les Hommes de l'Ombre, hein, qui est une série qui a été faite par France 2, et qui. Enfin, financée entre autres par France 2, et qui traite de la communication politique. C'est en 6 parties. Et
j'ai c'est génial ça hier de soir rythme, en zappant, C'est étonnant quand même. Hein,
c'est
ça,
étonnant. Hein.
Ouais, je sais pas, ça me laisse un sale goût.
Et ben pourtant,
ça.
C'est comme ça. Hein. Alors, ce qui est bizarre, c'est que ça sort juste avant les élections. Mais ça, c'est un autre. Mais c'est comme ça que ça se passe.
Un feuilleton qu'à mauvaise haleine, ça, je sais pas.
Ah ouais, pourquoi
ah, je sais pas,
qu'est-ce que tu ressens là-dessus, Jean?
Il y a une espèce de psychologie à deux balles, là, où on retrouve des gens qui sont au pouvoir, qui essaient de manger la tête de l'autre en leur demandant s'ils ont des munitions pour le descendre.
Mais c'est comme ça que ça se passe.
Violent,
mais c'est d'une violence humaine incroyable. Mais il montre je pense que ce feuilleton montre la réalité telle qu'elle est aujourd'hui avec les
je
hommes
pas
de
sûr.
L'ombre.
T'es sûr que c'est vraiment
absolument,
une réalité comme
absolument
ça.
Persuadé.
Moi, ce qui m'ennuie, je l'ai pas vu. Hein. Je l'ai pas vu parce que je n'ai pas là. Télévision, incroyable. Puisque on est tous sur Orange ici, puisque ça marche mieux dans le coin. La dame de chez Orange qui me dit, mais je lui dis, bah, écoutez, madame, non, ça m'intéresse pas le pack télé machin. Elle me dit, ah bon, ça vous intéresse pas? Je lui dis, ben non, écoutez, je n'ai pas la télévision. Alors là, il y a eu un blanc. Elle m'a dit, mais j'ai dit non, c'est un parti pris, je n'ai pas besoin. Elle m'a dit, mais comment vous faites pour les enfants?
J'ai acheté un grippe. Hein.
Je l'ai tué en disant, mais écoutez madame, si j'ai simplifié le problème, je n'ai pas d'enfants. Alors là ça a
été... Deuxième blanc.
L'horreur.
Deuxième blanc.
Accroché. Bon, excusez-moi, je...
Tu digresses.
Je digresse.
Presse. Non, mais c'est pas grave.
On ne sait pas ce qu'il fabrique, le petit père Sarko, avec son stratégie qui est très compliquée.
Alors, je voulais te dire, donc, parce que j'ai rebondi des parties sur ce feuilleton, c'est pas inintéressant, je voudrais quand même terminer vite fait la petite part avec Jean là, en réalité effectivement ce qui est malsain c'est pas forcément le contenu parce que je suis convaincu pour avoir été assez proche que ça se passe comme ça, ce qui est très dommageable c'est que ce soit diffusé en pleine campagne électorale et que la seule réaction qu'on puisse avoir en regardant ce type de document c'est de dire tous pourris et d'aller voter comme aux extrêmes
ou
sur des trucs comme ça.
Ou pas aller voter du tout.
C'est donc, mais malheureusement c'est la réalité, c'est comme ça.
Moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de machine qui est en route là à l'abstention, mais personne va aller voter si ça continue comme ça.
Mais c'est dégoûtant, les blancs...
Après pourquoi
les votes
pas
blancs,
mais bon,
depuis quand, je ne suis pas la date exacte, les votes blancs qui ne sont plus comptabilisés.
Non, mais je ne te parle même pas de vote blanc,
oui,
je te dis d'abstention pure.
Ce qui veut dire que
ils sont tellement blasés.
Ce qui veut dire qu'un Le Pen à 25%, ce qui veut dire qu'un Le Pen à 25% de 40% de votants, ça ne fait pas grand-chose, mais ça représente son poids réel. Il faut bien en prendre conscience aussi de ça.
Je sais.
C'est comme ça qu'Hitler, encore une fois, on peut le rappeler d'un point de vue historique, 30% des voix a pris le pouvoir avec 30% des voix. Faut réfléchir quand on annonce Le Pen à 22, des fois ça. Mais surtout, ce n'est pas ça. Il faut réfléchir quand on regarde le contexte européen, parce que si on va voir ce qui se passe un petit peu dans les pays de l'Est actuellement au niveau des remontées des extrêmes, ils sont en train de préparer le terrain et c'est pas la première fois dans l'histoire que ça démarre comme ça gentiment, en Autriche tu vois, dans des pays comme ça, et comme par hasard derrière c'est l'ensemble du continent qui est bouffé par cette espèce de doctrine. On va pas revenir là-dessus, c'est pas forcément le fond. Dernier point du discours de Sarkozy, c'est pas bien intéressant, la reprise de l'Ojabi, mais quand même là ça mérite le coup de chapeau. Notre président dit, moi je vais sauver les dames de l'Ojabi. Je vous garantis que je sauverai, je les laisserai pas dans la merde. Bon, une semaine après, on apprend par les médias que le Jabi est sauvé. Et le Jabi est sauvé comment ? Eh bien, une petite boîte de cuir du Massif Central, de Clermont-Ferrand, en réalité sous-traitant de Louis Vuitton, reprend le Jabi.
J'ai entendu ça. Ouais.
Mais alors, ce qui est exceptionnel, d'abord Louis Vuitton, bon, on sait bien que c'est le groupe LVMH, et on imagine peut-être que Nicolas Sarkozy a eu quelques facilités. Mais alors là où on imagine le niveau de la discussion, c'est quand on apprend que c'est l'État qui va financer la formation, le recyclage des filles pour apprendre le passage de la lingerie au cuir, et plus exactement que l'État va aller jusqu'à financer une partie de la reprise. Alors à 3 mois des élections, on arrive, on dit tiens, moi je vais sauver telle entreprise. Allô l'État, il n'y a plus d'argent, c'est pas grave, donne-moi des thunes. Voilà, j'ai sauvé l'entreprise. Et puis on imagine bien la discussion avec Bernard Arnault au téléphone, ouais, faut que tu me sortes de la merde là, tu veux pas les reprendre elle? Attends, je vais pas mettre des thunes dans cette boîte de merde. Si, vas-y, c'est pas grave, c'est l'État qui paye, reprends-les, j'en ai besoin.
En tout cas, un conseil, hein, si vous avez des petites difficultés, là, c'est le moment où jamais.
Ah, c'est le moment d'aller
déposer le bilan.
Pourquoi ils font pas des soutiens-gorge en cuir?
Ah, ça sous-entend un état de... Oula, Marie, attention à ton image.
Non, mais attends, ça pourrait être bien, non?
Ouais, ça pourrait être bien. Dernière petite autour du topo, parce qu'il se passe que pas... Enfin bon, on va pas parler évidemment du match en Égypte, mais on n'est pas foot ici, hein, bon, même si c'est horrible et tout, on refera de la géopolitique un petit peu plus tard. L'enfarinage de Hollande, faut quand même en toucher un mot, non pas pour l'action, parce qu'on s'en fout complètement, il a pris un paquet de farine dans la tronche, et ben écoute, il aurait pu prendre pire. Mais ce qui est hallucinant, c'est le traitement que la presse a pu en avoir dans l'immédiat, c'est-à-dire la sécurité des hommes politiques en question.
Ouais, ils vont nous en remettre une petite coche là.
Non mais attends, on apprend après qu'une semaine avant...
Politique, c'est dur.
Déjà, premier truc, j'ai halluciné la réaction d'Hollande. Il prend le paquet de farine dans la gueule, il bouge pas un sourcil, il secoue sa feuille et il ne s'affole pas, comme s'il était au courant. C'est un truc de fou furieux. Deuxième chose, on apprend qu'il y a une semaine, l'entourage de Hollande a demandé une augmentation des forces de sécurité autour de François Hollande. Une semaine après, il se fait enfariner. Conséquence, il y aura 15 mecs de plus pour le protéger. Moi, ce genre de truc.
Ça coûte combien, ça? Ça fait cher le paquet de farine.
Ouais, ça fait cher le paquet de farine. Après, le mec, il arrive devant les médias, puis il fait ouais, moi, ça fait partie des risques de mon métier. Non, franchement, faut bien remettre tout ça dans le contexte. C'est assez énorme. T'as des mecs aujourd'hui qui vont éteindre des incendies, t'as des mecs qui vont. Enfin, qui ont des métiers à risque, vraiment, quoi. Et lui. J'ai pris un risque, je peux prendre des paquets de farine, j'assume, je suis le chef, je dois assumer les paquets de farine.
Moi, très fort.
J'aimerais bien qu'il y en ait un, bon c'est compliqué après, ils doivent être tendus les mecs, hein. Mais le jour où t'as un politique qui se prend un paquet de farine et qui en rira, sincèrement, ce mec-là je vote pour lui.
Mais il a gagné.
Bah oui. Parce que c'est quand même pas grave, quoi.
Ah non, c'est vraiment pas grave, non.
Mais
non,
on place l'image à un tel stade. Enfin, on en a déjà parlé.
Tu parlais de communication politique. On n'a pas réagi tout à l'heure à ta question sur mais qu'est-ce qu'il a comme stratégie Sarkozy. Mais elle est très simple, sa stratégie à Sarkozy. Il a deux axes principaux. Le premier, c'est qu'il faut qu'il apparaisse comme quelqu'un d'humble et quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Et ça, la modification a commencé. Deuxième aspect, il faut en parler quand même dans son discours, le ton. Je sais pas si vous avez remarqué comme notre président qui parlait d'une façon très saccadée. Comme ça, je vais vous raconter. Sarkozy, maintenant, il met des E partout dans ses phrases. Quelque chose qui ne lui ressemble absolument pas. J'ai entendu un discours pendant 25 minutes, je suis resté scotché à la Commission européenne. Voilà. Vous allez me demander. Et qu'est-ce que ça crée comme sensation pour l'auditeur tout de suite? C'est que le mec, il est posé, il réfléchit réellement. Donc ça casse la codification du langage politique où le langage est tellement structuré qu'il ne peut avoir été qu'écrit et travaillé. Il suffit de donner l'impression en mettant des E dans les phrases, de faire traîner un petit peu les phrases, pour tout de suite donner la sensation qu'on réfléchit en temps réel. C'est fondamental dans la perception du discours politique.
C'est son pote Johnny qui lui a filé le truc.
Bien joué. Bien ouais. Deuxième aspect, donc ça c'est le premier axe de la modification du candidat Sarkozy. Et le deuxième axe, à mon avis, qui est relativement intéressant, c'est notre bilan. On a fait des choses pas drôles, mais on a eu le courage. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as utilisé le mot, on a eu le courage de le faire. Et ça, qu'on le veuille ou non, aussi, ça travaille beaucoup l'inconscient des gens. Ça sort de la posture. Voilà un mec, finalement, il pense à l'intérêt général. Parce que annoncer un truc aussi négatif dans une campagne électorale, on ne peut être que intéressé par l'intérêt général. Moi, je trouve cette stratégie de com' qui est une forme de dévente, hein, on peut appeler ça comme ça en marketing, cette forme de dévente, finalement, je pense, est assez dans l'air du temps et beaucoup moins stupide qu'il n'y paraît.
Ah, mais c'est certainement pas stupide. Ils font pas à ce niveau-là, ils font pas d'erreurs. Mais effectivement, c'est suffisamment retors. Pour une fois, je trouve ça très retors.
C'est très fin.
C'est finaux, je le comprends pas. D'ailleurs, je trouve que les gens n'ont pas réagi à la proposition des 1,6 de TVA. On en avait parlé la semaine dernière. Sarko a dit qu'il n'augmenterait pas les impôts. Ça, c'est fort, parce que la TVA, c'est le premier impôt de France qui rapporte, je ne sais plus ce qu'on avait dit, 3 à 5 fois ce que rapporte l'impôt sur le revenu.
C'est énorme.
Et là, donc, on va se manger 1,6. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment c'est sous tous les produits, sauf sur les produits de nécessité, et c'est, ouais, on se prend un 6, quoi. C'est, ouais, c'est beaucoup.
Ouais.
C'est...
Ouais, ouais, bien sûr. Ça va nous placer en peloton, un peu peloton supérieur de la communauté européenne, enfin des pays de la communauté européenne. Bon, moi,
c'est
l'idée de...
Et un 6 qui, ouais, se prenne, que ce soit le smicard ou le... C'est un 6 pour tout le monde, mm-hmm, voilà, c'est... Ah ouais, c'est...
Bah oui, non, mais c'est ça, c'est de ce niveau-là. Et puis de manière, tu sais, je vais te dire un truc, si c'est pas lui, c'est Hollande, c'est pas Hollande, c'est Bérou. Bérou l'annonce dans son programme. C'est-à-dire que ce qu'on peut qualifier, j'ai horreur de cette idée, parce qu'évidemment, elle va faire tout de suite derrière dans l'enchaînement. Il y en a certains qui vont dire, ah oui, mais alors, les candidats, mais oui, mais c'est ça, les candidats entre guillemets de l'appareil, c'est-à-dire que ceux qui défendent d'une façon claire et nette la logique philosophique avant d'être politique qu'ils défendent, c'est-à-dire le business, le marché, ainsi de suite, ces gens-là, de toute manière, à quelques pouillèmes près, vont tous dans la même direction. Et tant qu'ils seront à faire des chiffres et des prévisions sur leur sacro-sainte croissance, qu'ils ne maîtrisent absolument pas, la seule variable d'ajustement quand on s'est planté dans l'analyse, et Dieu sait qu'ils se plantent, parce que ça a des avantages aussi, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là, à chaque fois qu'ils se plantent, sur quoi ils corrigent ? Mais corrige sur la TVA, sur quoi tu veux qu'il corrige ?
Bah, oui, c'est ça.
C'est tout, c'est un problème, on en reparlera dans la deuxième partie
de l'émission. Il y en a qu'un qui n'a pas la même posture, hein. On sait lequel c'est, hein.
Tu parles de Mélenchon ?
Ouais, ouais.
Ah ouais, mais Méluche, on reviendra, on lui fera une spéciale dédicace, lui, parce que pas qu'on soit d'accord, pas qu'on soit d'accord avec tout, mais le ton est rafraîchissant, on va dire, dans certains cas. Bien, et bien Marie, ça va être t'as quelques petites brèves que tu nous as chopées dans le canard d'aujourd'hui ?
Oui, alors parce que le canard d'hier, parce que sinon l'actualité locale, ben c'est qu'il fait froid, hein, ça, donc on l'aura compris. Il neige,
la France a peur.
Voilà, c'est donc c'est bien terrible. Mais alors donc dans le canard, c'est beaucoup de petites brèves qui tourne autour de l'absurde, alors que je vous livre en vrac. On a l'absurde de la justice. Alors, j'ai relevé que donc un trisomique de 21 ans a été quand même gardé 48 heures en garde à vue. Ouais, il a été embarqué par les flics, si tu veux, qui ont trouvé normal d'arriver au petit matin pour le choper chez lui, parce qu'il y avait deux filles qu'il avait accusées d'un vol de collier.
Hein, d'accord.
Elle dit, ok, bah, c'est le méchant mongolien qui a volé mon collier. Donc, à l'aube, ils prennent le mec, ils l'embarquent. 6h
du mat, ouais.
Il est gardé, alors qu'il y avait sa mère et tout ça, qui disait, attendez... oui, il a un âge mental de 6 ans, hein, suivant les psychiatres. Oh. Donc, c'est un trisomique qui est quand même, voilà, lourd, hein, ce qu'on appelle. Hein. Il a passé 48 heures en garde à vue.
Ouais.
Ça a été validé par le médecin, qui a trouvé ça normal. Et puis, le procureur l'a envoyé au tribunal. Hein, et donc c'est juste au
sans avocat. Sans avocat, il fallait qu'il se défende tout seul.
À ce moment-là, les magistrats ont trouvé que quand même il y avait eu un bug, tu vois, dans la série. Et, donc il a été relaxé, puisque évidemment les deux connasses qu'il avait menti. Et évidemment, il n'avait pas pris le collier. Et là, on se dit, ok, il y a un souci quand même.
C'est du délire. Alors, si les parents sont malins, là, il y a des thunes à prendre. Hein.
Non,
franchement, dommage et intérêt, tu peux aller fort là.
D'un bout de la chaîne à l'autre, que ce soit les flics, le docteur, les mecs qui l'ont gardé à vue, le procureur, comment ils sont tous siphonnés ou quoi ?
Ouais, non, mais c'est, tu sais, il y a une espèce de réflexe qui fait que on le retrouve des fois dans le sport. Il y a une règle, et la règle, à part au rugby, qui est justement un sport qui met une variable assez hallucinante, il y a une règle de base que l'arbitre peut interpréter, et ça change énormément de choses. Il faudrait qu'en politique, finalement, on ait à peu près la même logique, c'est-à-dire l'interprétation de la règle. Alors, une justice qui va bien à une règle, c'est les codes, et après, on a des hommes en face qui ont des variables d'ajustement en fonction de leur ressenti, de leur analyse du dossier. Dans un pays qui a tendance à se crisper et où la justice subit d'énormes pressions avec un problème de débit, on n'a pas le temps l'homme n'a pas le temps de s'intéresser à l'homme et on applique connement la règle. C'est pareil au football, on applique connement la règle.
Ouais,
c'est,
mais il y a un autre truc derrière, niveau, en plus, si qui est plus grave, qui est là, parce que le truc, c'est que les filles, en plus, elles avaient menti. Donc t'es présumé coupable directement,
ouais, ouais,
quoi.
Ah oui, il n'y a plus de siphonner. La présomption d'innocence n'existe quasiment plus.
L'handicapé mental m'a volé mon collier. Putain, il a passé 48 heures en tôle pour ça.
De toute manière, il n'y a plus de présomption d'innocence à partir du moment où les médias peuvent s'en emparer, déjà, pour commencer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un média dit « le présumé innocent, machin, vient d'être mis en garde à vue », déjà, de toute manière, on a focalisé l'image sur toi, on t'a mis un coup de projo, t'es mort, t'es déjà condamné. Même si tu ne l'es pas encore, que t'es même pas passé devant un juge, t'es déjà condamné. Le média a focalisé sur toi. Donc,
quand tu vois des anciens chefs d'État qui sont fait porter pâle parce qu'ils n'étaient pas suffisamment en forme pour pouvoir se défendre.
Ouais, ouais.
Et que lui, on l'embastille.
C'est hallucinant, c'est hallucinant. Mais maintenant, voilà, encore une fois, tous ces discours-là, c'est un petit peu toujours l'éternel. C'est peut-être d'ailleurs un des fameux problèmes, peut-être des tontons, c'est qu'on revendique, on revendique, on revendique. Et ouais, mais on fait comment pour faire bouger tout ça, hein, c'est pas simple. Marie, bref, suivante.
Bref, suivante. Je pense que vous avez entendu parler de Madame Morano et de son escorte.
Nadine Conner. connaît pas.
Nadine connaît pas. Non, mais est-ce que vous avez entendu parler de ce fait divers?
Ah, qu'elle a renversé un mec. Elle a, enfin, son escorte aurait renversé un mec.
Ouais, 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 mais est-ce que vous connaissez le détail? Alors, toujours, qui vient du Canard. Donc, j'ai eu le détail parce que Madame Morano a râlé parce que le Canard avait publié la semaine dernière, apparemment, des trucs tout un peu injustes. Alors, oui, c'est un peu injuste. Effectivement, le garçon qui a été renversé n'a pas 25, mais 28 ans, celui qui était dans le coma. Hein, oui, c'est très important. Et elle n'allait pas chez elle, Madame Morano. Elle ne rentrait pas à Toul, parce qu'elle habite à Toul, je ne sais pas où c'est Toul, un bled à 100 bornes de Paris, apparemment. Mmh. Elle allait.
Lorraine, je
alors, écoute-moi bien, un truc extrêmement important. Elle se rendait en urgence pour rejoindre Fillon qui visitait une usine, qui était déjà avec Besson. Ça, c'était très important, à mon avis, que la ministre déléguée à la formation professionnelle assiste en urgence à cette visite d'usine où il y avait déjà Fillon et Besson, tu vois.
Ouais.
Et alors. Petite
truc. Attends, t'es pas au courant, ils avaient changé le repas à la cantine.
Et alors donc, tu vois, donc c'était, elle avait une autorisation spéciale. Il faut savoir que quand même, le gars, il a été renversé, je lis, avenue du Général Leclerc. Mmh. Alors pour les gens qui connaissent un peu Paris, c'est une très grande avenue qui se trouve à Porte d'Orléans. C'est un truc, il y a trois voies de chaque côté. En sens inverse, prendre l'avenue du Général Leclerc en sens inverse.
Ah, ils l'ont fait en sens inverse, ouais.
Ouais. Si tu veux, c'est comme on voit ça que dans les feuilletons américains, quoi, avec les gars, avec la criminelle,
Nadine
avec
Morano,
les machins.
Grand moment de solitude. Donc, le bilan de Nicolas Sarkozy est exceptionnel, je vous interdis d'attaquer le bilan de Nicolas Sarkozy.
Nadine Morano, une espèce d'excitée insupportable.
Alors, donc, c'est complètement hallucinant la condition. Donc, comment est-ce qu'on peut donner des autorisations pareilles sur un axe aussi emprunté pour ça?
Par les chars, surtout, hein, depuis 1940.
Mais tu sais qu'ils font la même chose avec les avions. Hein. J'ai un copain qui travaille dans ce milieu-là, ils m'ont dit, mais attends, des fois, en tant qu'aiguilleur, il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Hein.
Ils font partir des avions dans les couloirs, dans le sens inverse, dans les couloirs.
De fou, mais un jour, tu vas voir, il y aura un carton, c'est sûr.
Si ça pouvait tomber sur l'Elysée, ce serait...
Donc, moi, je trouve ça complètement dément hein, de faire ce genre de risque pour des conneries pareilles. Et alors, quand même, on apprend toujours le Canard qui délie et qui dit que François Fillon rentre à Sablé, qui est à 230 km de Paris, tous les week-ends en Falcon, quand même.
Ah oui, donc, attends.
Non, mais tiens, ça, c'est assez fort, quoi.
Personnage important.
Bon, donc, c'est merveilleux.
Très bien, Marie. Et quoi d'autre?
Une petite toujours pour l'absurde.
Oh, t'as de la place, vas-y.
J'ai la place, ouais, l'absurde. Vas-y. Alors, on a le petit bref qui parle du carbendazine. Alors, qu'est-ce que c'est le carbendazine? C'est un truc dégueulasse. C'est un agent mutagène, je vous lis, reprotoxique et tératogène.
Ouh.
Putain, ça, c'est ça,
déjà, tu pars en courant là.
Ça se mange, ça s'injecte, on fait quoi avec ça?
Alors, c'est un fongicide, le carbendazime, hein,
ouais.
Et qui
anti-champignon donc. Hein,
aux US, c'est un peu la panique parce qu'ils en ont trouvé dans les jus d'orange Tropicana, Minute Maid, Simple Orange. Ah bon, c'est un peu ennuyeux quand même. Alors, tout ça retiré du marché parce que ça perturbe juste le génome. Si tu veux, c'est un truc qui est pas grave.
Ah, les mecs qui ramassent les oranges, je te raconte pas ce qu'ils ont dans les burnes. Hein, je veux pas être vulgaire, mais.
Alors, ce serait des oranges qui viennent du Brésil, hein, parce que c'est mieux donner les saloperies d'à côté. Tu vois, tu pollues le Brésil. Oui, entre autres choses, ça rend stérile, ça rend débile et ça fait des malformations fœtales.
Hein, et après, tu te retrouves en garde à vue sans avoir rien demandé.
Exactement. Après, on t'embarque parce qu'on t'a volé des colliers. Quoi.
Vas-y.
Bon. Donc, chez nous, c'est très rassurant. C'est interdit par le Grenelle de l'environnement. Sauf que, chez nos amis les États-Unis, c'est complètement interdit. Mais nous, on a un degré de tolérance dans les produits. Donc,
oui, les normes. Oui. Les fameuses normes.
Les fameuses normes. Et cerise sur le gâteau. Nous n'en faisons pas partie, mais 14 des 27 pays d'Europe. Donc, les paysans peuvent asperger les champs de céréales, de betteraves et de maïs avec ce truc-là, qui se retrouve, bien sûr, après dans la bouffe. Donc, en fait, on en fait ici. Et chez nous, on a le droit d'épandre dans les vergers. Alors, nos amis agriculteurs doivent connaître un truc qui s'appelle du thiophanate méthyle.
Mm-hmm.
Bon, thiophanate méthyle, génial, hein, on en met partout. Et qu'est-ce qui se transforme dans l'organisme? En carbendazime. C'est génial. Donc, là aussi, on est hyper protégé. On voit bien que c'est tout est... Tout
Moi, ce que
logique,
je comprends pas
quoi.
Bien avec ces trucs-là, c'est on sait ce que ça fait de mal, mais au départ, ça fait quoi de bien s'ils l'utilisent?
Ah ben
il
c'est...
doit bien y avoir une raison.
Oui, c'est des accélérateurs pour tout le processus de pousse, si tu veux. C'est-à-dire que l'objectif,
c'est un engrais.
T'as de l'huileau.
Le truc de départ. C'est pas la spécialiste.
Non, mais je voulais te laisser le temps de respirer, Marie, quand même.
Non, le carbendazime, c'est un fongicide. Donc ça, on voit
anti-champignon.
Ce que c'est. Anti-champignon. Par contre, tu as raison.
Donc
le thiophanate méthyle, c'est sur les vergers et je ne sais pas si c'est un fongicide. Alors, amis agriculteurs, si vous avez des informations sur le thiophanate méthyle, appelez le 05 65 49 29-94.
Deux niveaux de lecture, si on peut en placer une quand même dans cette émission. deux niveaux de lecture. Les agriculteurs, ils font deux choses. Ils préparent le sol. Donc à ce niveau-là, on peut avoir pas forcément des engrais, mais tout ce qui va oxygéner, hein, l'azote, ainsi de suite. On essaye d'avoir soi-disant le sol le plus prêt à recevoir le semis. On sème et après on a un deuxième traitement au niveau de la protection, éviter les attaques pour accélérer les processus de pousse, éviter la perte, ainsi de suite. Bon, donc il y a des traitements tout au long de la chaîne. Encore une fois, la rentabilité, à partir du moment où il y a rentabilité et croissance derrière, c'est la porte ouverte ou n'importe quoi, évidemment, puisqu'on va injecter dans le sol des tas de saloperies, des sols qui d'ailleurs pour certains, pour les, je dirais pas, il ne doit pas y avoir beaucoup de bosserons à l'écoute, mais dans la Beauce, le plat pays qui est le leur là-bas au sud de Paris et au sud et à l'est de Paris, vous avez un nombre de terres mortes absolument hallucinantes qui ne sont absolument plus cultivables. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des tas de bruits, c'est normal, il y a des travaux, enfin ils sont en train de tailler des arbres sur la place, ils élaguent sur la
place.
Ouais,
moi je trouve que c'est une bonne journée pour aller aguer des arbres là, tu vois.
C'est super sympa la reprise par les micros, j'aime beaucoup. Bon, on va rester 2 minutes, on va réveiller Chloé qui va nous envoyer un petit disque, n'est-ce pas Chloé? Coucou Chloé! Ah, Boulard-Vierry avec son
casque. C'est dommage parce que j'avais une bonne citation de Monsieur Le Pen qui n'arrête pas de nous faire rire.
Une citation
quand même.
De qui?
De Monsieur Le Pen qui est quand même notre humoriste national favori.
Le temps qu'on prépare le Scud, on voit.
Et Marine, sinon j'avais plein de trucs à dire. Hein, Marine Le Pen, hein, son papa avec la perruque, hein, qui a été un bal, donc un bal à Vienne.
Un bal nazi.
Un bal à Vienne.
Oui, excellent.
Et alors, Monsieur donc, Le Pen qui a quand même commenté. Zut, où est-ce que j'ai mis.
Précisons que ce bal était interdit aux juifs et aux femmes, hein, quand même, hein, par un organisme organisateur.
Il a eu. Donc je parle aux 15% d'électorat donc de Monsieur Le Pen. Hein, quand
non,
même,
20,
parce qu'on
20,
va
20.
Bien. Non, ouais. Bah, écoute, 15%, c'est les dernières stats.
Ouais, mais oublie les stats 25.
On s'en fout. Voilà, mais on va bien se marrer au gouvernement s'il passe quand même, parce qu'avec un gars qui dit, je cite, le bal, j'ai moi-même assisté à cette magnifique manifestation qui retrace d'ailleurs le Vienne du 19e siècle. C'est Strauss sans canne, si vous voulez.
Strauss sans canne. Ah ouais, ouais, ouais.
Bravo encore, Monsieur Le Pen, merci, parce que c'est énorme, il n'y a que lui qui peut dire.
Et c'est, vous savez que c'est la vie,
quoi.
Tu sais que c'est la vie off de Sarkozy. Le Nouvel Observateur, aujourd'hui, jeudi, sort un numéro spécial donc sur le off de Sarkozy, mais pas le off dont on a parlé il y a quelques jours aux infos, le off général, c'est-à-dire qu'il paraît qu'il se confierait de plus en plus sur ses états d'âme, mais c'est également ce qu'il pense de ses concurrents directs à l'élection présidentielle. Et entre autres, il disait de Le Pen, la fille Le Pen. Rien à faire, parce que de toute manière, elle n'a pas la culture de son père.
Oui, et donc,
elle n'a pas surtout cet humour.
C'est un gros goré, mais un gros goré avec un peu d'humour.
Hein, réparti, c'est humour, je sais pas.
Ah non, mais c'est ironique ce que je dis, parce que dire des trucs pareils, Strauss sans canne, quoi. Attends.
Ouais, fallait la faire.
Faut la faire, quoi. Pour moi, c'est énorme. Je sais pas si ça vous choque, amis auditeurs. Moi, ça me choque.
Ça t'a, je suis sûr que ça t'a traumatisé ta nuit dernière.
Non, pas ma nuit dernière, mais. Il faut le dire, voilà.
Allez, vous pouvez téléphoner pendant la musique. On redonne le numéro 05 65 49 29 94 et on se dit rendez-vous dans quelques minutes.
It's very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line.
got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're...
Voilà, retour dans les Tontons Flingueurs en direct ce jeudi matin. Dernière partie, mais c'est la plus importante, on l'a gardée bien longue exprès, sans préparation s'il vous plaît. On va parler d'environnement, mais alors dans quel sens, faut préciser un petit peu quand même, hein, parce qu'on nous vend en permanence la protection de l'environnement, en permanence, la publicité l'a intégré, je crois, hein, les industriels aussi dans leurs produits, on a remarqué que ce sujet était très très présent dans le marketing, maintenant, curieusement, absent, à part par Eva Joly, bien sûr, mais absent de la campagne électorale, comme je le disais, par le biais d'Eva Joly, qui nous rappelle à chaque fois qu'on l'écoute à quel point on l'a envoyé au casse-pipe. En parallèle, on mesure à chaque augmentation l'engrenage financier que représente l'accès aux énergies. Je crois que sur nos factures, c'est clair, pétrole, électricité, gaz, tout est devenu hors de prix, et bien sûr, ça n'est qu'un début. Alors, on devrait être dans une logique, mais ça fait longtemps qu'on en parle, on devrait être à fond sur les réductions des dépenses énergétiques, tout en remplaçant évidemment les énergies fossiles par des alternatives maintenant qu'on peut qualifier de connues. Or, on constate quoi ? Que les industriels qui gèrent les énergies fossiles, eux, on les aide plein pot pour s'emparer du marché du renouvelable. Alors que le particulier, lui, qui aimerait bien finalement goûter un peu à l'autonomie pour des questions essentielles peut-être de thunes, voit s'opposer des interdictions croissantes dans sa guette. Alors, ces constats nous confirment qu'en réalité, la notion environnementale, contrairement à ce qu'on pense, elle conditionne nos vies au plus haut point, dans tous les compartiments, mais sans qu'on puisse, nous, influer sur les décisions qui sont prises au sommet. Alors, l'enjeu, il faut dire quand même qu'il y a un enjeu financier considérable, on comprendra un petit peu mieux cet état de fait. Il faut quand même rappeler que depuis pas mal de temps, la plupart des guerres sont des conflits où on va se bastonner uniquement pour assouvir nos besoins énergétiques, camouflés derrière des raisons politiques. Alors nous, on s'est dit, voilà, c'est un sujet quand même qui est assez important, on a eu envie d'en faire un petit débat, sans prépa, comme je vous disais, sans analyse journalistique, mais avec nos approches de citoyens. Donc c'est vraiment le moment d'intervenir si vous avez des débits ou des choses à dire sur ce sujet, pour terminer le...
Vous avez des débits.
Tu as dit ça ?
Oui, tu as dit ça.
J'ai dit des choses à dire.
Non, t'as dit des débits.
J'ai dit des débits.
Ça fourchait avec avis, je crois.
Ah, pas des avis.
Des débits, des débats.
Ah, c'est
avis,
un lapsus intéressant. Alors, pour terminer cette petite introduction, l'électricité nucléaire va coûter, c'est une info Mediapart de ce matin, l'électricité nucléaire va coûter de plus en plus cher dans les années qui viennent, analyse la Cour des comptes, d'où la tentation des acteurs de la filière de faire durer les centrales nucléaires existantes. Dilemme, il est urgent de formuler une stratégie énergétique explicite, publique et transparente. Ça ne dit ni plus ni moins que ce que je viens de dire dans cette ouverture de sujet. Ça, c'est une phrase de Didier Migaud, donc, qui est le président de la Cour des comptes. Et en parallèle, nous avons dans l'actualité le rapport Besson qui vient de sortir pour 50 ans et qui plaide sur une prolongation de l'énergie nucléaire. On voit bien donc la logique. On attaque tout de suite le débat. On attaque tout de suite le débat et j'aimerais bien vous poser une question. On va parler un peu de la notion d'écologie politique pour commencer. Est-ce que l'écologie est quelque chose qui doit être représenté par un parti ? Est-ce que ça doit avoir sa place dans tous les partis ? Est-ce que ça n'a rien à foutre en politique et ça fait partie uniquement du problème du citoyen, selon vous ?
Ouais, pour moi, je dirais que je ne sais pas si ça doit vraiment faire partie d'une vie politique. Je crois que c'est d'abord une conscience, quoi. On l'est ou on ne l'est pas, écologique. Dans sa démarche de tous les jours, tu vois, t'es pas obligé d'avoir une carte dans un parti avec des instances, des chefs.
Mais comment on arrive à la prise de conscience ?
Tout à fait d'accord avec toi.
La prise de conscience, je crois que c'est moi. Je pars toujours du principe que effectivement, il y a beaucoup de gens qui t'expliquent tout un tas de phénomènes, tout un tas de principes que tu pourrais effectivement mettre en application selon leur façon à eux. Mais après, il y a ta façon à toi de la vivre. C'est-à-dire que c'est l'écologie par l'exemple. Écoute, mon garçon, tu fais comme ça, ça te paraît bien ? Écoute, ok, hein, mais regarde, moi, je fais comme ça. C'est-à-dire, tu fais, Et après, pour ceux qui veulent savoir, bah, ils viennent, ils regardent, ils discutent, ils s'informent, ils voient si effectivement il y a un rapprochement avec leur projet perso ou pas.
Mais il y a plein de gens qui n'ont rien à faire.
Malheureusement, ouais. Malheureusement, alors oui. Mais bon, quand même, attends, il faut être un peu plus positif que ça, quand même. Quand même, il y a des gens qui commencent à s'y intéresser par nécessité financière ou par manque. Mais moi, je reste un éternel positif. Je pense que les gens évoluent.
Dans la société où on vit, moi, j'ai... Ouais. Marie.
Mais dans l'urgence, parce qu'on a trop le choix, quoi. Mais
j'y pensais ce matin, dans mon bain chaud où j'ai pulvérisé 200 litres de trucs. Pas grave, parce qu'à un moment, on est des êtres humains, et bon.
Non.
Mais oui, j'en viens au même truc que toi, c'est-à-dire pour être écolo, point de départ, c'est aimer la nature.
Oui. On va expliquer ça au mec qui vit en ville depuis qu'il est né.
Et lui, il croit qu'il aime la nature. Et ça, c'est l'écolo de la ville. J'en connais plein.
Mais non, mais il y en a qui n'ont même pas la conscience de ce que c'est qu'une chèvre, un mouton, une vache, qui n'ont jamais vu ça de leur vie.
Il a cette idée de l'écologie, mais qu'il ne connaît pas. J'en connais plein, les organismes qui sont...
La pub leur parle d'ailleurs, tous les messages sont tournés vers cette clientèle-là, on te vend les saucisses machin dans un champ, on te vend la lessive machin dans un autre champ. Enfin,
faut reconnaître que c'est quand même beaucoup plus facile d'être écologique ici à Saint-Afrique, en habitant à la campagne, que dans le 18e, ça soulève une question.
Alors cette image, moi j'aurais justement, vous allez voir qu'on va revenir à la notion très vite, à la notion d'écologie politique derrière. Est-ce que vous croyez vraiment que nous soyons plus écolos, nous en Aveyron, que à la ville?
Non, je pense pas non plus, mais c'est plus facile, si on veut. C'est plus facile.
Plus facile de respecter peut-être.
Parce qu'il y a plus à respecter. Que le Parisien, lui, va dire, tiens, je vais avoir une démarche écologique aujourd'hui, je vais laisser ma voiture, je vais prendre le RER.
Non, mais il prend pas sa bagnole, le Parisien, de toute façon. Je pense qu'il peut lui moins qu'un gars d'ici, parce que ici, t'as pas le choix, tu prends ta voiture. Ouais. Mais par contre, il sait pas de quoi il parle. Et donc, ça lui donne une vision faussée, il n'a qu'une vision à travers les médias.
Une vision un peu idéalisée, d'ailleurs.
Oui.
La vision.
Donc ça, par contre, ici, oui, on est tellement en contact, on voit bien, il suffit d'un peu de bon sens pour...
Moi, je vais être un peu trash. Malheureusement, j'ai la sensation que l'écologie, s'il n'y a pas une prise de conscience culturelle de la notion globale, mais ça touche toujours les mêmes. Donc, résultat, qui c'est qui revient à la campagne aujourd'hui, qui quitte les villes pour revenir à la campagne? Toute une génération de bobos, dont je fais partie, je ne m'exclus pas du truc. Toute une génération de bobos qui dit, la ville, c'est devenu insupportable, parce que l'écologie, c'est pas juste l'environnement. L'écologie, c'est l'écologie mentale aussi. C'est sauver sa tête quand on est dans pour ceux qui bossent, qu'on bossait en ville, ils savent ce que ça veut dire. Devenir barjot, devenir aussi con que la moyenne, c'est pas les autres les cons, c'est on devient con dans ce système de vie. L'écologie, ça commence là. L'ensemble des gens qui aujourd'hui font un retour à la campagne, il y a deux catégories et c'est très clairement analysé. Il y a ceux qui ne peuvent plus pour des questions de moyens financiers vivre en ville, et puis il y a les bobos qui pour des questions intellectuelles vont aller à la campagne et qui les trois quarts d'ailleurs découvrent et repartent à la ville très vite que c'est extrêmement compliqué et puis que il suffit pas d'aimer la nature pour y vivre, bien y vivre quoi, que c'est extrêmement compliqué. Alors encore je repose ma question, si on n'éduque pas parce qu'on vit quand même dans une société de masse, donc je suis obligé d'utiliser ce terme. Si on n'éduque pas les masses, sans que ce soit péjoratif.
Elles sont éduquées, les masses, là, mais elles sont pas bien éduquées. Mais elles sont éduquées, attends, ça suffit, quoi.
Elles sont éduquées à quoi?
Mais elles sont éduquées à coup de conneries, quoi.
Donc c'est pas de l'éducation, elles sont blindées, elles sont formatées, elles sont pas éduquées.
Je sais pas ce que tu en penses, Jeannot, mais moi, quand je vois ce que disent les Verts, pas tous, mais ce qu'ils disent globalement, que ce soit alors les Verts, les partis politiques, que ce soit les industriels, que ce soit tout le monde, mais il faut arrêter de dire des conneries. On a en face des gens qui ne savent pas une seconde de quoi ils parlent. Et je remercie à ce propos Madame de Dieucasti, qui se reconnaîtra quand même notre vice-présidente du Conseil régional. Je pense que Madame de Dieucasti, je ne sais pas, a dû faire des études... Je ne sais pas, qu'ils n'ont rien à voir avec l'écologie parce qu'elle, c'est la palme de la connerie. Quoi.
Qu'est-ce qu'elle a sorti?
Après, c'est des sujets qui me touchent personnellement. Par exemple, pour remplacer le nucléaire, elle préconise évidemment l'éolien et on va en mettre partout où c'est possible dans notre région.
On va avoir l'occasion de reparler de ça
donc,
dans deux minutes.
Pas savoir à ce point-là, c'est grave. Quoi.
Je reviens à la notion. L'éducation, entre guillemets, faut qu'il y ait un éducateur. Alors, ça veut dire quoi? Que l'éducateur, lui, se base sur un travail qui a été fait par des spécialistes, tu en parles à l'instant, eux-mêmes étant capables de mettre en place d'une façon cohérente, j'utilise volontairement ce terme, une doctrine, et que cette doctrine, après, on donne des vecteurs, des moyens pour la transmettre à la masse. Voilà comment ça devrait se passer dans la logique. Le problème étant qu'il faut qu'au départ, dans l'approche que l'on a de l'environnement, les gens qui vont faire la doctrine et les spécialistes aient une tournure d'esprit qui aille dans le sens de l'intérêt commun. Ça, c'est la première difficulté. Je reformule ma question maintenant autrement. Ce que l'on sait éviter, si aucun parti politique ne s'empare et défend cette notion d'écologie, qui va s'occuper de la doctrine écolo? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Moi, je pense que c'est aux parents, aux frères, aux amis, à ton entourage direct. C'est déjà à eux d'avoir une action sur ton éducation.
Et si eux-mêmes ne sont pas formés ?
J'ai presque envie de dire, tu sais, c'était comme un peu à l'époque, là, quand ils disaient cours d'instruction civique, on voulait t'apprendre la citoyenneté, etc. etc. Ouais. Normalement, moi, je sais qu'avec mes enfants, on en a toujours beaucoup parlé. À table, le soir, en voyage... de pointer effectivement des phénomènes écologiques qui sont intéressants ou remarquables ou
mais tu n'arrives pas à des HLM de Sarcelles, je suis désolé de te le dire comme ça, Jean.
Ça passe par l'observation déjà et puis une sensibilité, c'est ce qu'on disait au départ. Moi, ce qui me gêne dans tous ces mouvements, que ce soit les Verts, que ce soit associatif ou autre, c'est qu'il y a toujours des règles. Tu vois, on essaye de te balancer des règles très générales qu'on essaye d'appliquer à une grande généralité, qu'elles soient au niveau du territoire ou même des gens. En sachant que de toute façon, l'écologie, elle a sa particularité. On ne peut pas comparer ce qui se passe à Saint-Affrique,
c'est territorial,
à Rodez.
C'est forcément territorial.
C'est obligatoirement.
Voire local.
Voire même local, voire même voisin, quoi. Tu vois, l'écologie, c'est le voisin qui va faire n'importe quoi à côté de chez toi.
Donc, premier aspect intéressant dans tout ce que tu dis, l'écologie et la centralisation sont opposées dans la logique.
Pour moi,
Et plus on va vers une mise aux normes, par exemple au niveau européen ou mondial, des notions environnementales, et plus on est dans plus on s'éloigne du terrain.
Ces normes, elles sont là, en fin de compte, pour te faire un croche-pied. Comment dire, ça fait l'effet inverse, en fin de compte. Ces généralités ne s'appliquent pas.
On a vu ce que donnait l'écologie politique. Marie, je te rends la parole dans 5 secondes. On a vu ce que donnait l'écologie politique, puisque depuis des années, évidemment, différents partis, différents candidats se sont étripés pour le pouvoir. Génération écologie, les Verts, ainsi de suite. Bon, on a eu la sensation, on a vu le triptyque Beauvais, ainsi de suite, aux européennes faire monter jusqu'à 15 ou 16%, je crois, si je me souviens bien. Vraiment s'implanter. Et on s'est dit, ça y est, l'écologie rentre, ça va. Et patatras, des années après, on constate que les Verts, on voit au casse-pipe une femme qui est par ailleurs fort brillante dans la partie juridique et son métier,
bien.
Ainsi de suite,
franchement,
et très respectable à mon avis en termes humains, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, mais que l'on envoie au casse-pipe à la candidature, comme si c'était un choix pour ne pas affaiblir le Parti Socialiste. On entend parler que les Verts vont aller faire des associations pour des postes avec François Hollande, quitte à renier leur propre doctrine quand on compare évidemment le discours sur le nucléaire du candidat Hollande et la position officielle des Verts là-dessus. C'est donc un grand écart hallucinant. Sinon, ça sent le torpillage complet de la notion environnementale représentée par le politique. C'est une bonne chose pour vous ou voilà, parce que ils vont au bouillon les Verts là.
Je crois qu'ils ont réfléchi pendant des années. Quelles alternatives ils ont, quoi. Il n'y a pas un moment ou un autre. Il va bien falloir plonger dans le système. Ils ont pris cette orientation là. Maintenant, est-ce qu'ils vont pas y laisser des plumes au niveau de l'idéologie? Moi, j'en suis certain. Mais bon. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien, va savoir.
C'est presque la fin de l'écologie.
Au moins, ils vont être écoutés, peut-être.
Vous n'êtes pas choqué par ce rapprochement avec le PS, pas plus que ça?
Ah si, moi aussi, moi complètement.
Faire un parti écolo, c'est déjà compliqué, quoi.
Alors on a c'est génial, on est 4 dans le studio, on va en faire des choses.
Alain.
On a le plaisir de recevoir tonton numéro 4 pour aujourd'hui, Alain Guillaume, merci de nous rejoindre.
Et LHL pour les intimes.
On a un débat, on disait que quasi sans prépa en live, mais c'est pas grave, un débat. À notre petit niveau de citoyen et avec nos compétences évidemment sur le sujet, autour de la notion d'environnement, mais pas l'environnement, le cucuit, les petits oiseaux, l'environnement avec un axe majeur qui est aujourd'hui tout est conditionné par l'environnement, les énergies qui augmentent, tout qui pète, ainsi de suite, et curieusement, un système politique qui fait mine de totalement l'ignorer quand on regarde les différents programmes, ou pire, qui envoie une candidate, Eva Joly, qui, on était en train de dire juste avant que t'arrives, qui par ailleurs peut être extrêmement respectable, mais qu'on envoie au casse-pipe, avec une espèce de dissolution de l'idée environnementale, par l'Association des Verts et du Parti Socialiste. Voilà, on en était là.
Ouais.
Mon avis là-dessus déjà.
Mon avis, si tu veux, c'est que ce que tu dis de la situation d'Eva Joly, quoi. En fait, quelque part, c'est rigoureusement la même situation qu'a connue Ségolène en Royal, c'est-à-dire qu'elle est confrontée aux dinosaures bien en place du Parti Socialiste, parce qu'il ne faut pas trop se faire d'idées. On va pas là en discuter aujourd'hui, parce que ce n'est pas un discours sur les campagnes électorales.
Non, c'est
mais
pas le but,
on pourrait à nouveau, si tu veux, réanalyser l'attitude du Parti Socialiste depuis un siècle. siècle. Hein. Ouais. Moi, je suis complètement disponible pour en faire l'analyse. Et là, on tomberait de cul, parce qu'il faut voir qu'on n'est pas à l'abri de l'étonnement avec des paradoxes dont ils ont largement alimenté les catastrophes.
Mais hein. je suis entièrement d'accord avec toi. Mais bon.
Et là, si tu veux, ils sont en train de Bon, ils l'entourent d'un espèce de sympathie fondamentalement électoraliste, quoi. Mais en fait, je pense que ils l'ont sacrifié.
C'est ce que j'ai dit au casse-pipe, tu vois, c'est ça. Casse-pipe.
Ouais, dans la procédure, ils l'ont.
C'est ce qui m'inquiète, moi, c'est la dissolution de l'idée écologique, avec tout qu'avait quand même dans le programme des Verts, il y a des choses extrêmement intéressantes. Et entre autres, on va y arriver évidemment sur l'aspect philosophique, sur la notion de décroissance et tout ce qui va autour, parce qu'on sera obligé d'en parler évidemment. Mais ce qui est hallucinant, c'est que en l'envoyant au casse-pipe comme ça, on fait petit à petit accepter au subconscient des gens qui regardent ces informations tous les jours, qu'il y a une espèce de dissolution d'idées possibles entre le programme des Verts et ce que représente le Parti Socialiste aujourd'hui, à savoir un parti libéral, on va pas dire ultra puisqu'il y a Sarkozy pour représenter cette branche, mais un parti libéral au service de la croissance et du business.
Ouais.
Et c'est ça qu'on est en train de faire en envoyant Eva Joly au casse-pipe. Si les Verts sont aussi nuls, il n'y a plus besoin de les écouter.
Et puis l'écologie politique n'a rien à voir avec l'écologie de l'esprit. Hein.
Non, voilà, c'était bien une thématique. Ouais. Allez, on avance.
Jeannot, il disait un truc très important tout à l'heure. Il parlait de règles. J'aimerais bien qu'on parle des règles. J'en ai
des normes,
de
tu veux
ce
dire
pays. Non, des règles et des lois et de ce pays où on devient, tu l'as déjà. Il en peut plus. Toi, tu connais très bien les lois sur l'eau. Etc. C'est hallucinant, quoi. On ne peut rien faire aujourd'hui. On nous dit, soyez écolo, les gars, protégez la planète. On ne peut rien faire.
On arrive tout de suite dans les possibilités.
Moi, je crois qu'il n'a jamais été aussi urgent de faire comme tu as envie de faire. Tu le fais en bon père de famille.
On y arrive. Juste avant, un petit mot. Aujourd'hui, évidemment, on se rend compte que la seule prise en compte environnementale, elle est donc, on l'a dit, on l'a vu, emmenée par la communication, par la pub. Pourquoi ? Parce que les industriels ont intérêt à ça. Et on se rend compte en parallèle que les industriels, les Total et compagnie, on est en train de leur filer les clés de la maison pour avoir le temps, sur un certain nombre d'années bien adaptées, de passer de leur énergie fossile actuelle vers les énergies renouvelables, grosso modo, Total.
Et avec des solutions préhistoriques. Hein. Ils sont pas assez réactifs parce que les solutions, et tu m'as dit tout à l'heure, sortir du nucléaire, évidemment, on le veut tous, sortir du nucléaire, hein, on ne sait pas quoi faire des déchets, donc il faut le faire. Mais on est sur des trucs qui ont déjà 30 ans et qui sont obsolètes. Et ils s'en saisissent tous. Parce qu'il faut faire dans l'urgence, qui est absolument le truc inverse qu'il faut faire dans l'écologie. Il faut faire doucement et en réfléchissant et en prenant le temps. Et ça, c'est un machin.
Mais ce qu'on peut faire autrement.
Mais là, il faut se méfier.
Voilà.
Ce que vient de dire Marie, il faut se méfier. Moi, je dirais que j'ai le bénéfice du vécu au niveau de la mise en œuvre du renouvelable, parce que j'en ai fait pendant 50 ans. Tu comprends ? Je veux dire, ma première installation solaire, c'était en 1960. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand elle dit des solutions obsolètes, il faut se méfier parce que, à mon avis, c'est la présentation qui te fait aller, qui t'amène à penser que la mise en œuvre est obsolète. Le problème, c'est que les présentations d'aujourd'hui te laissent croire que tout ce qui s'est passé au-delà des 20 dernières années date de la préhistoire. Or, j'aimerais quand même insister sur le fait que l'essentiel de ce qui caractérise les mises en œuvre technologiques des énergies renouvelables, elles ont au minimum 50 ans, un siècle, voire plus.
Les process sont longs.
C'est le mode de présentation aujourd'hui. T'écoutes une radio, tu regardes la télé, t'as toujours le professeur Méburne ou l'expert qui va te dire que la caractéristique de l'explication technologique d'aujourd'hui ou l'explication situationnelle, c'est toujours l'individu qui se distingue des autres en inventant un mot. Donc le professeur machin est venu, il a lancé son mot, terminé. Seulement, il faut quand même bien comprendre qu'il y a une multitude de choses qui ont été inventées bien avant ces gens-là. Je ne vais pas plaider pour l'ancienne génération ou les vieux dont je pourrais faire partie, dont je fais partie d'ailleurs, mais il n'en est pas moins vrai, je veux dire que la totalité de la présentation de notre monde contemporain par les experts et par tous ces gens-là et par tous les discours qu'on entend, c'est une espèce de négation, si tu veux, du passé.
Je suis complètement fou.
Marie, tu voulais réagir ?
Oui, parce que, notamment Alain, je suis d'accord avec toi, un des meilleurs moteurs qui a été inventé, le moteur Stirling, il date de 1890.
Non, de 1783.
Encore, bah alors tu vois.
Alors attention, voilà. T'es tombé sur un expert.
Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand je te dis obsolète, c'était un mauvais mot. Il y a des solutions qui existent, on ne prend pas les bonnes.
Je reviens à l'idée des industriels qui s'emparent. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que l'on sait, on parlait juste avant d'éducation, j'aime pas le terme, mais encore une fois, il est pratique, des masses. Il y a un moment, il faut accepter cette idée. Il y a une masse, simplement. Voilà, d'autant plus qu'en face, il y a des médias. Donc il y a une masse. Est-ce qu'on sait informer cette masse ou l'influencer à prendre, à avoir un comportement écologique, que ce soit par le biais de la consommation, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Je suis désolé, faut pas être aveugle. Le mec, il est écolo, pourquoi? Si un jour le produit qui est propre, il est moins cher que le produit qui est sale, le mec, il va devenir écolo. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Si un jour le mec, il peut plus payer sa facture de fuel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh, je vais peut-être mettre un poêle à bois. C'est comme ça qu'on devient écolo. On va devenir écolo par le porte-monnaie. Je parle de la masse, là, je m'entends. Donc j'arrive à la question. Est-ce que l'on sait amener cette idée-là dans la tête du grand public autrement que par le fait que les industriels gagnent de l'argent sur le process, qu'ils nous envahissent par la publicité, et que petit à petit, la population va modifier ses comportements comme ça? Est-ce qu'on sait faire autrement?
Alors, moi, je vais te répondre. Dans une société qui est articulée sur la notion de confort, autrement dit, la notion de confort d'aujourd'hui, ce n'est pas la satisfaction de l'essentiel, mais la consommation du superflu.
Ouais, ouais, ouais. Hein,
dans une société comme ça, moi, pendant très longtemps, j'ai donné des cours à Sabatier, j'étais dans une commission régionale d'économie d'énergie, je peux te dire que quand tu t'adresses aux gens sur un mode qui n'est plus le mode professoral, c'est-à-dire que tu commences pas en leur disant « vous n'êtes que des abrutis ou des demeurés, moi je vais vous enseigner quoi que ce soit », si tu commences à leur dire « écoutez, je suppose qu'on a tous des connaissances qu'on peut être amené à partager », ça signifie simplement que d'un seul coup, bien sûr, celui qui est censé savoir est dévalorisé par rapport à celui qui est censé ignorer, mais tu te rends compte quand même que, même dans des situations comme ça, t'as 2-3% des gens qui, à la fin du cours, viennent te voir en disant « Dis donc, on pourrait pas approfondir le truc parce que ça m'intéresse. » Je te signale à toute fin utile que toutes les idées, quelles qu'elles soient, n'ont jamais, dans nos sociétés, avancé à un autre rythme que ça.
C'est ça, on ne sait pas faire plus vite.
On ne sait pas faire plus
vite.
C'est
une très bonne réponse à la très très bonne réponse à la question. On ne sait pas faire plus vite.
Bah, donc, oui.
Alors maintenant, on va parler un petit peu de ce que je qualifie de décroissance, mais il est quand même temps de réinsister, de bien réexpliquer ce mot-là. La décroissance énergétique. Je m'entends bien. On se rend compte donc que les énergies, un, ça coûte de plus en plus cher, deux, ça pollue. Donc ça, c'est un des aspects fondamentaux de l'environnement, et par le côté écolo, et par le côté facture économique. Est-ce que l'on sait rendre compatible une décroissance énergétique avec une croissance économique ?
Oh ben ça me semble, oui. À mon avis, c'est parfaitement...
Ça pose aucun problème.
Ah non ?
Non, mais
il suffit simplement de retrouver, si tu veux, un processus de cohérence qui échappe à la logique capitaliste, et puis tu vas voir que tout va s'équilibrer.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
C'est banal, quoi.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, quand tu me parlais de ces écologiques qui deviennent écologiques par nécessité financière, ceux qui se disent, tiens, je l'ai moins cher, c'est écolo, je le prends. J'ai presque envie de dire, c'est pas ça un écologique.
Non, c'est pas ça.
Moi, l'écologie... Non, mais parce que le grand public va pas arriver comme ça, c'était ça.
Non, ouais. Mais moi, à mon avis, tu vois, quelqu'un qui devient écologique en disant, bon, bah tiens, non, c'est 10% plus cher, mais c'est écologique, je fais la démarche de... Là,
mais
peut-être,
le mec a du mal à finir. Le mec a du mal à finir.
Non, ce que je veux dire, c'est que dans la démarche...
Mais c'est une démarche intellectuelle, Jean-Jacques. C'est respectable.
C'est aussi l'élévation du niveau de conscience.
Exactement.
Parce que si tu veux, le problème là-dedans, c'est qu'à partir du moment où même le parti écologiste,
si c'est trop facile,
qui s'est transformé en parti politique, si tu veux, cautionne, par exemple, les mécanismes de subvention à destination des gens. Je veux dire, tu ne demandes pas à celui qui bénéficie d'une subvention d'avoir en plus une élévation de conscience à destination d'une prise de conscience
sur des produits. Sur des produits qui sont obsolètes, et là, Alain, j'y tiens, les produits qui sont subventionnés aujourd'hui sont de la préhistoire des énergies renouvelables. On leur donne bonne conscience aux gens, eux, ils regardent que le portefeuille, ça ne forme pas des écolos.
Non.
Tu as dit sortir du capitalisme, bien sûr, on ne peut faire que ça pour être écolo aujourd'hui, et c'est une honte que chez nous, les produits, les accès à l'énergie soient plus chers que tout est fait pour ne pas rendre les gens autonomes, parce que l'État se gave sur EDF, se gave sur l'eau, se gave partout. Et voilà. Et donc, là-dessus, comment veux-tu fermer le robinet de la manne ?
Non, mais attends, il y a encore autre chose. Parce que là, je n'ai évoqué que l'aspect économique. Maintenant, on n'en a plus le temps, mais si vous voulez, un jour, on pourra évoquer l'aspect stratégique, je veux dire,
de la concentration,
concentration énergétique, parce que l'autonomie, si tu veux, c'est pas tellement une modification du comportement à destination de l'économie, c'est une prise de conscience à destination d'une révolte d'autonomes, voilà. ce qui est complètement différent.
Alors par rapport à ça, on se rend compte quand même qu'on se heurte à quelque chose d'énorme. Il y a eu un excellent doc sur Arte il y a quelques semaines qui a été rediffusé, qui s'appelait l'obsolescence, c'était pas le nom du mais c'était sur l'obsolescence programmée. Très intéressant comme concept. Petit rappel pour les auditeurs, l'obsolescence programmée, c'est qu'il y a 60-70 ans, des types ont commencé à comprendre que si on fabriquait des machines qui avaient une durée de vie limitée, évidemment on serait obligé d'en consommer plus et donc de renouveler et donc de redépenser. Et c'est comme ça qu'on a vu nos frigos qui duraient 40 ans, en duraient 8, en duraient 7, en duraient 6, et puis nos machines à laver, voilà, pareil. Bon, l'obsolescence programmée, c'est devenu un concept marketing. Et ça a précédé même le marketing, il faut le savoir, c'est assez impressionnant. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'autonomie, il faut accepter l'idée que si nous achetons des machines, au-delà de la consommation énergétique qu'elles vont avoir, nous rentrons dans un cycle où nous sommes pieds et poings liés. C'est la notion de confort dont tu parlais, qui est fondamentale, et qui va donc amener à la dernière partie de la réflexion, qui est changement philosophique, changement de prise de conscience, changement de regard sur l'organisation même de nos vies.
Modification de l'éthique,
bien sûr. Modification complète de l'analyse. Alors parlons de ça. On a 5 minutes pour 3, enfin 4 minutes
mais
pour parler.
Moi j'aimerais bien qu'on, refasse une émission là-dessus, parce que je suis désolée, ce sujet il est super riche et on n'a pas eu le temps d'en parler. Il y a plein de trucs.
C'est le principe d'un débat. Il y a toujours un moment où
Quand même 3 ans maintenant que c'est l'actualité super chaude et qu'on nous bassine avec ça, et que moi j'en ai marre de voir et d'entendre des conneries.
Qu'est-ce qu'on peut expliquer aux gens à qui le mot décroissance fait peur? Parce que il va y avoir une bataille idéologique justement à gagner. L'écologie et l'environnement, c'est quand même, on a bien vu, tout ce qu'on déroule nous amène à la même chose. Il faut modifier nos comportements. Comment? Qu'est-ce qu'on va expliquer aux gens en leur disant il va falloir se passer de confort, oui ou non? Comment on peut faire? Comment pour, je dirais, induire un minimum de changement de comportement philosophique dans la tête des gens?
De toute façon, évitons l'idéologie, parce qu'à terme, elle est toujours dominante.
C'est bien.
Moi, j'ai presque envie de dire, nous, on nous bassine, mais ce qui m'effraie le plus, parce que j'ai des enfants, des amis qui ont des petits-enfants, c'est que nous, ils nous bassinent, mais on n'a aucune action sur l'éducation de nos enfants. Nos enfants, ils y connaissent rien.
Ah, je suis pas d'accord.
Je vois ce qui se fait dans les petites écoles,
je suis pas d'accord. Les mômes, je les trouve vachement plus éveillés que nous là-dessus, par contre.
Sur l'écologie?
Ah, grave.
Par rapport à notre éducation à nous, mais par rapport à ce qui se passe réellement, à mon avis, ils sont pas au jus du tout. Donc
on court derrière.
On devrait expliquer. Les parents expliquent pas assez aux enfants.
Je sais pas, parce que moi, c'est peut-être un problème d'éducation, d'éducation et de l'école et des parents. Mais moi, quand je relis les bouquins de mon époque, quand on passait le certificat d'études, je veux dire, la notion écologique, on appelait ça science pratique ou science naturelle, mais c'était vachement bien expliqué et tu savais comment faire une fosse sceptique ou une cuve pour l'eau douce. Hein.
Aujourd'hui, on est plus dans le concept. C'est ça le problème d'ailleurs.
Qui sont quelquefois vraiment pas terriblement... Je les aime pas, ces concepts.
On est sorti de la préhistoire depuis bien longtemps. Faut pas déconner.
Alain, pour terminer. Ouais. Est-ce que tu te sens capable, en 1 minute 30, de raconter la petite anecdote que tu racontais sur le médical? Est-ce que tu as assez de temps en 1 minute 30 pour le faire? Parce que c'est fun, ça.
On parle complètement d'autre chose avant de vous dire au revoir. Alors oui, j'aime bien les infos médicales. Donc, il y a quelques temps, l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, mais les médecins, à l'occasion de la vaccination du H1, étaient donc déresponsabilisés, indépendamment du fait qu'ils étaient payés pour cette vaccination éventuellement. La deuxième information qu'on avait diffusée sur ces ondes, c'était qu'une association en loi de 1901 rétribue les médecins à partir du moment où ils envoient leurs patients faire un examen pour le dépistage du cancer colorectal. Et la dernière en date, parce que celle-là, elle est quand même merveilleuse, à destination de cette catégorie sociale qui, à mes yeux, ne représente qu'une pauvreté supplémentaire, avait à 10 000 euros par mois quand même, parce que dans le même temps, quand même, malgré la crise, ça a quand même, ils ont quand même augmenté leur revenu. Eh bien, figurez-vous que maintenant, la Sécurité sociale fait donc des statistiques nominatives. Ça veut dire qu'on prend les ordonnances du médecin sur toute une année, on voit le nombre de fois qu'il a évité de l'antibiotique, parce que l'antibiotique, c'est pas obligatoire, et à chaque fois, s'il y a une diminution de ses préconisations d'antibiotiques, en fait, il est rétribué.
Il touche.
Il touche. Oh, la vache. À partir du moment.
Allez, Chloé oh me fait des regards noirs. Marie, à la semaine prochaine. Gros bisous.
Ah oui, je veux qu'on reparle de tout ça. Je vous fais des bisous.
Jean, merci beaucoup de ta participation. Tu viens quand tu veux. Le café est dégueulasse, mais tu peux venir quand tu veux.
C'est cool, c'est cool.
Chloé est dégoûtée, celle qui l'a fait.
Heureux de vous avoir gêné.
Merci beaucoup. Alors.
Oh là là, merci.
Bisous, à la semaine prochaine. Salut.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible. Je voulais être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Je vais le travailler en férocité, faire marcher à coups de latte. À ma pogne, je veux le voir.